Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette troisième séance Starting Block qui vise à découvrir ou redécouvrir ensemble le premier long métrage d'un cinéaste de renom. Donc pour cette troisième édition, nous recevons Olivier Assayas après avoir eu Ouda Benyamina et Emmanuel Berco et nous verrons ce soir ensemble Désordre.
Donc oui, merci aussi d'être venus aussi nombreux. Je tenais juste à remercier avant toute l'équipe des Fauvettes donc, qui nous accompagne depuis le début de ce cycle. Et c'est formidable de faire ça ici, c'est un beau cinéma, une super équipe. Et merci aussi à toute l'équipe de l'AEC qui nous aide à organiser ça. Donc l'AEC, l'Association des étudiants en cinéma, c'est nous qui organisons cet événement. Donc s'il y a des étudiants en cinéma dans la salle qui ne sont pas encore adhérents ou qui ne connaissent pas l'association, c'est un sacrilège. Il n'y a pas marqué l'adresse du site, c'est bête, mais bon, voilà. Ce soir, on voit donc Désordre de Olivier Assayas, qui est son premier film, sorti en 1986. Donc c'est un film assez intéressant par rapport au reste de la filmographie d'Assayas, parce qu'il est... Bon, j'avais écrit un truc, ce sera peut-être plus simple. Je vais lire quelques extraits parce que c'était intéressant. Désordre a su composer un portrait pénétrant et non sociologique de notre époque, à travers notamment les trajectoires erratiques et enchevêtrées de jeunes en quête d'eux-mêmes et d'une nouvelle vie, de sens et de repères. Voilà. Et puis voilà, le reste est très long. Je vous laisse, je ne vais pas vous spoiler. La séance sera suivie d'une masterclass, donc, tu l'as déjà dit. Bon, en fait, j'ai plus rien à dire. Donc voilà, très bon film et à tout à l'heure. Merci à Eurocitel pour les génériques et trucages. Donc, rebonsoir. Alors, on va parler avec le cinéaste. Maintenant, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Olivier Assayas.
Merci de venir répondre à nos questions ce soir, Olivier Assayas.
Alors la première que je vais vous poser, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de point d'interrogation, donc ce n'est pas une question, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. La musique populaire, les possibles du voyage, l'énergie de l'adolescence, la fin d'une époque, la renaissance sont les thèmes centraux de votre filmographie et se révèlent déjà dans votre premier film.
Oui, enfin, je ne l'aurais pas formulé comme ça quand je faisais des ordres, mais enfin, peut-être avec, rétrospectivement, avec le recul des décennies, peut-être, ouais, peut-être comme ça.
Alors, pour revenir un peu avant des ordres, au début des années 80, vous étiez critique, vous réalisiez déjà des courts-métrages, mais vous écriviez, notamment pour les cahiers du cinéma. Et à partir de Désordre, vous avez complètement arrêté votre carrière de critique. Alors, qu'est-ce qui a motivé cet arrêt? Est-ce que le métier de réalisateur était un rêve de jeunesse et le premier objectif?
Oui, bien sûr. Disons que, puisque l'objet de la discussion, c'est un premier film, moi, j'ai toujours eu envie d'être cinéaste. Hein. C'est-à-dire que j'ai jamais eu dans ma vie, à aucun moment, eu envie d'être critique. J'ai fait un détour par la critique, si vous voulez, à un moment donné, parce que pour moi, ça a été mon école de cinéma. C'est ce dont on se parlait tout à l'heure, d'ailleurs, en prenant un verre, c'est... si vous voulez, revenons en arrière. J'ai commencé par la peinture. C'est, enfin, très jeune, adolescent, ma peinture ne vaut rien, mais néanmoins, il y avait ce désir d'un rapport très spontané, très naturel, et c'est de la peinture abstraite, donc c'était quelque chose de très, très inarticulé. Et puis, ça, sans doute qu'il y avait cette espèce de besoin qu'on peut avoir très jeune, adolescent, d'exprimer quelque chose. Enfin, c'est presque vital. Et le cinéma, évidemment, ne pouvait pas me donner ça. Parce que quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on ne peut pas faire de cinéma, même si on a le sentiment que c'est sa vocation, comme c'était mon cas. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir abordé le domaine des images à travers travers quelque chose de très brut et d'assez inarticulé. Et j'ai commencé à un moment donné à faire des courts-métrages. Et quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, un peu dans le prolongement hein, de mes pratiques artistiques adolescentes, j'ai eu le sentiment de... Comment dire, d'être encore trop ignorant du cinéma, de pas comprendre, de pas connaître, d'être maladroit, et parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai fait des études de lettres en plus des beaux-arts, j'ai eu l'impression que je devais apprendre la géographie du cinéma, l'histoire du cinéma, la théorie du cinéma, pour tout simplement comprendre, répondre à une question très élémentaire qui était, je sais pas, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire des films, à laquelle j'aurais été tout à fait incapable de répondre encore à cet âge-là. Donc, c'est vrai que j'ai eu une grande chance qui a été que le premier court-métrage que j'ai fait, qui s'appelait Copyright, a été vu par Serge Danet et Serge Toubiana, qui à cette époque-là dirigeaient les Cahiers du cinéma. Et on a vu parce qu'on avait une amie commune. Et ils ont présenté ce court-métrage dans le cadre d'une sorte de festival qui s'appelait la Semaine des Cahiers du cinéma, enfin la Semaine des Cahiers du cinéma présente, qui était la première projection publique de mon film. Ils m'ont dit, écoute, voilà, nous, on a besoin que la revue rajeunisse, on a besoin de jeunes dans l'équipe, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire sur le cinéma? J'avais vraiment pas envie d'être critique, ça c'était pour moi j'ai même envie de dire que c'était presque un repoussoir, c'était quelque chose qui m'attirait en rien. Pour moi il y avait d'un côté la pratique et puis de l'autre une sorte de regard analytique de spectateur mais auquel je m'identifiais en rien. Le fait que ça vienne des Cahiers du cinéma, évidemment, ça changeait la donne parce que à cette époque-là, encore, c'était une revue qui était faite par des gens qui étaient historiquement faite par des gens qui voulaient être cinéastes et que même ce que j'aimais le plus dans le cinéma français, c'était des cinéastes qui avaient appris le cinéma en écrivant aux Cahiers du cinéma ou ce qui était une. Alors donc, je l'ai vécu ou je l'ai perçu à cette époque-là comme une sorte de sas entre la rêverie de faire du cinéma et la pratique et pour moi ça n'a été que ça, c'est-à-dire alors bon, comme par ailleurs le fait d'écrire sur le cinéma c'est pas une manière de gagner sa vie, enfin c'est très 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 mal payé. Pendant toute la période où j'y suis quand même au résultat des courses, j'y suis quand même resté 5 ans. Hein, j'ai quand même passé 5 ans où j'ai beaucoup écrit pour la revue. J'étais très 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 actif, voire moteur. Simultanément, j'écrivais des scénarios. Je travaille pour différents cinéastes, certains plus reconnus ou d'autres étant des gens de mon âge qui débutaient en même temps que moi et à qui auquel je mettais au service desquels je mettais le maigre savoir que j'avais. Et c'est vrai que cette période, pour moi, donc encore une fois, ça a été constamment une circulation entre la réflexion dans l'écriture, à travers l'écriture et la pratique, c'est-à-dire l'écriture de scénario, la réalisation de courts-métrages. Et puis, encore une fois, cet aspect école, pour moi, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, je me suis retrouvé dans un milieu, où franchement, à cette époque, c'était certainement l'endroit où s'écrivaient et se pensaient les choses les plus passionnantes sur le cinéma. Il y avait des gens comme j'ai cité Serge Danet et Serge Toubiana, mais enfin, il y avait Pascal Bonitzer, il y avait Serge Leperron, il y avait Alain Bergala, il y avait Jean Arboni, il y avait Daniel Dubroux, j'en oublie beaucoup. C'était un lieu de réflexion sur le cinéma extraordinairement vivant encore une fois avec des gens dont le désir était d'aller vers la pratique du cinéma. Donc Et moi, j'étais un peu le petit jeune, hein, quand même. Il y avait ce côté du jour au lendemain. D'abord, on m'a admis à la table des grands, c'est-à-dire à une sorte aux réunions du comité de rédaction où on écoutait ce que j'avais à dire et on le prenait au sérieux, ce qui me semblait stupéfiant. Je suis allé dans des festivals où j'ai vu des films que j'aurais jamais vus en salle à Paris. Donc, d'une certaine façon, aussi mon horizon, ma géographie du cinéma s'est déployée, elle s'est ouverte. J'ai découvert les bribes de cinéma asiatique qu'on pouvait voir à cette époque-là. Et puis, encore une fois, c'était la possibilité de rencontrer, d'interviewer des cinéastes. Que j'admirais et de leur poser les questions que je me posais moi-même quant à la pratique du cinéma. Et encore une fois, le fait, cette espèce de statut bizarre que je pouvais avoir à la fois de quelqu'un qui écrivait sur le cinéma, qui se vivait un peu comme une sorte d'étudiant, ça produisait y compris des choses paradoxales, parce que je me souviens très bien, très précisément, d'un jour où justement... à l'époque, c'était pas la FEMIS, c'était l'IDEC, et ils avaient invité les rédacteurs de la revue des Cahiers du Cinéma à donner leur point de vue sur les travaux des élèves cinéastes de l'IDEC. Et donc, moi, j'avais été embringué dans cette histoire-là où j'étais censé regarder et juger. Les travaux d'étudiants en cinéma qui en réalité avaient mon âge et qui en général en savaient plutôt plus que moi sur la pratique du cinéma parce qu'ils venaient de faire trois années d'études. Et parmi, je me souviens, c'est vrai qu'avec le recul c'est drôle, parmi les étudiants il y avait Arnaud Desplechin, je me souviens, donc j'ai été là Enfin bon, voilà. Mais encore une fois, pour répondre à votre question, je veux dire, à la seconde où j'ai commencé à faire du cinéma et à pratiquer le cinéma, pour moi, l'écriture, la télé, la critique, tout ça n'avait plus aucun intérêt. Quel intérêt ça aurait pour moi à ce moment-là? Pour moi, il y a ce moment où je sors un peu du cocon et où tout d'un coup les questions que je me posais quand j'écrivais, les questions de pratique du cinéma ou de théorie du cinéma, eh ben j'avais la chance de pouvoir me les poser 45 fois par jour de tournage et de mettre mes idées en pratique et de me confronter au réel, voir ce que ça donnait.
Et du coup, avez-vous trouvé une réponse à votre question de pourquoi voulez-vous faire du cinéma?
Non. disons que c'est une question qui est très compliquée. Je pense que d'une certaine façon, c'est plutôt la réponse à cette question. Je l'ai trouvée dans l'admiration pour les très grands cinéastes. C'est-à-dire l'admiration sans borne que je peux avoir pour Robert Bresson, pour Andrei Tarkovsky, pour Jean-Luc Godard, François Truffaut, c'est Jean Renoir. C'est au fond le sentiment que ces artistes ont amené le cinéma à un tel niveau que il y a quelque chose qui justifie de consacrer sa vie à cet art. Quelque chose comme ça.
Et du coup, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez écrit 7 films avant de vous lancer dans Désordre, dont Rendez-vous d'André Tichiné.
Oui, ça c'est des comptabilités qui font qui sonnent un peu IMDb.
Bon, je vous avoue que c'est Wikipédia.
Wikipédia ou trucs comme ça, parce que tout d'un coup, ils calculent des trucs. J'ai écrit 4 scénarios. J'ai écrit dont 2 pour André Téchiné. C'est-à-dire que j'ai celui d'ailleurs qui m'a un peu fait connaître, enfin comme scénariste, qui était Rendez-vous, qui est celui qui est le film qui a aussi fait connaître Juliette Binoche à l'époque. Et ça remonte à 85, si je ne me trompe pas. Et par la suite, j'ai écrit un autre film avec André Téchiné, qui était Le lieu du crime, en collaboration avec Pascal Bonitzer. Et avant ça, j'avais écrit 2 scénarios qui était un pour mon ami Laurent Perrin, qui avec qui on, j'avais commencé à faire des courts métrages, deux, il y en a deux autres, donc ça fait cinq. Il y a un pour un, alors vraiment qui est bon, enfin qui a qui, ouais, qui est pas terrible. qui a un film qui s'appelle L'Unique. C'est franchement, c'est un truc. Je le verrai. Je pense que c'est vraiment un ratage burlesque, quoi. Enfin bon,
j'ai envie de le voir, du coup.
Oui, enfin, si vous pouvez l'éviter.
Parce que du coup, donc, vous avez écrit ces films et comment ça s'est passé, ce déclic de se dire bon, allez, maintenant, je veux m'en écrire un pour moi. Désordre.
Ah bah non, parce que j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu, c'était la question. J'ai écrit pour moi des courts-métrages. Et puis la question, c'est presque une question de maturité, c'est-à-dire de se sentir prêt. Donc je pense qu'il y a un moment donné où je me suis senti prêt à passer. Donc il y a à la fois, disons que il y a un moment où, quand on a envie de faire des films, mais que les choses se mettent en place, il y a un moment où peut-être il y a une sorte de conjonction qui fait que ça devient possible, que ça devient envisageable de faire un long métrage. Moi, j'en rêvais. Enfin, je veux dire, c'est un truc que je pense que j'avais besoin de sentir qu'il y avait suffisamment d'éléments en place qui permettaient de penser à un long métrage de façon réaliste. Donc, admettons que le petit succès de l'un de mes courts-métrages, ou au fond qui était un film très 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 abstrait, etc., mais qui avait une sorte de reconnaissance comme ça, de savoir-faire technique, etc., le fait que j'ai écrit avec André Téchiné Rendez-vous, qui a été un véritable succès, le fait que j'ai écrit avec Laurent Perrin Passage secret, qui n'a pas été un succès mais qui était un film qui a eu quand même une certaine reconnaissance et que j'avais écrit littéralement 15 jours, tout d'un coup je me suis dit bon, ben voilà, maintenant j'ai l'impression que je commence à avoir une notoriété suffisante pour qu'éventuellement j'ai une chance d'arriver à financer, ne serait-ce que modestement, un de mes projets. Bon, ça devenait, l'hypothèse que je fasse un long métrage devenait crédible, quoi. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, je parle de Rendez-vous, mais j'avais déjà commencé à écrire Désordre avant de commencer à écrire Rendez-vous avec André Téchiné. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais commencé à écrire Désordre et j'ai interrompu l'écriture de Désordre pour écrire avec André Rendez-vous. Mais je pense que l'écriture de Rendez-vous, le travail avec un cinéaste que j'admirais beaucoup et que j'admire toujours beaucoup, qui est André Téchiné, m'a beaucoup appris. Et que d'une certaine façon, ça a beaucoup libéré mon écriture. Et je pense que la façon dont j'ai pensé Désordre, dont l'écriture de Désordre s'est déployée, est liée d'une part à la rencontre avec André Téchiné et à fond à ce que j'ai appris sur l'écriture de cinéma avec André Téchiné, et d'une certaine façon aussi avec une expérience qui date tout ça de la même année, qui est 84, qui est mon voyage à Taïwan, où j'ai fait la connaissance de Rosia Ossienne, de Edouard Yang, et où j'ai été extrêmement marqué par la rencontre avec des cinéastes de ce qu'on a appelé la nouvelle vague, le nouveau cinéma taïwanais.
Justement, pour revenir à ce passage vers le premier film, alors comment on parvient à mettre en place un projet de premier long métrage ? Donc, vous parliez un peu de ce que vous aviez déjà acquis, et donc comment on monte le financement ?
Alors, le financement, d'abord, il faut trouver un interlocuteur, c'est-à-dire qu'il faut trouver un producteur. Un producteur, c'est pas aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui est assis sur un tas d'or et qui va financer des films. C'est quelqu'un qui est d'une certaine façon a un savoir-faire, des contacts, une reconnaissance qui fait que il sait manier l'argent de cinéma en s'adressant aux partenaires qui peuvent financer un premier film. Je l'ai raconté souvent, mais disons que moi je me suis retrouvé à ce moment-là dans une situation qui est assez intéressante et qui est intéressante, y compris du point de vue de comment un jeune cinéaste, une jeune cinéaste peuvent aborder cette question-là, parce que je me suis retrouvé devant une alternative où, d'une part, il se trouvait que je connaissais Marine Karmitz j'avais fait des petits boulots, etc. J'avais même travaillé sur un scénario avec lui, d'ailleurs, qui s'est jamais fait. Mais enfin, bref, il se trouve que je le connaissais. J'avais entre les mains le scénario de mon premier film. Je lui ai donné à lire. Il m'a convoqué à son bureau et il m'a tenu un discours qui était à peu près le suivant, qui était écoute, j'aime ton scénario. Je vais commencer à tourner dans le mois prochain le nouveau film d'Alain Resnais, qui à l'époque s'appelait Mélo, ce qui évidemment ne rajeunit personne, surtout pas moi. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, tu vois, pour t'épauler, pour t'aider, ce que je vais faire, je vais proposer à l'équipe de Resnais de faire deux films à la suite, celui de Resnais et le tien. Je pense, à mon avis, en se disant qu'éventuellement, il y a moyen de les payer moins cher. Enfin bon, c'est peut-être pas la seule crise. Mais en tout cas, il y avait cette idée de faire un film encadré par un savoir-faire technique que, clairement, quand on fait un premier film, on n'a pas. Et simultanément, j'avais un autre interlocuteur qui était Claude-Éric Poirou. Aujourd'hui, il est plus connu comme l'organisateur du Festival d'Angers, le responsable du réseau Europa Cinéma. Et à l'époque, c'était... Comment dire, à l'époque, Claude-Éric était une sorte de distributeur branché, en utilisant ce mot avec tous les guillemets possibles, dans le sens où, il avait distribué Jarmusch, il avait distribué Carax, il avait distribué Lars von Trier, il avait distribué Stephen Frears, enfin, etc. Il y avait un côté un peu l'équivalent cinématographique de la New Wave, quoi. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et moi, je sortais de ce monde-là, je sortais de cet univers-là, de ce milieu-là. Quand j'ai donné mon scénario à Claude-Éric, Claude-Éric m'a dit, écoute, il a dit, écoute, voilà, moi, j'ai fait que de la distribution. Ton scénario, il me donne envie de passer à la production. Je ne l'ai jamais vraiment fait. Je pense que je peux y arriver. Et là-dessus, je lui dis oui, mais alors comment tu veux qu'on travaille, etc. Tu fais comme tu veux, c'est toi qui décides, etc. Et donc, d'une certaine façon, il me donnait la possibilité de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'aller chercher non pas des techniciens aguerris, mais de travailler avec les jeunes gens avec qui j'avais commencé, c'est-à-dire aussi bien le monteur, l'opérateur, décorateur, costume, etc., qui faisaient tous leur premier film, ou leur second dans le meilleur des cas, et où au fond il y avait la possibilité de prolonger dans le long métrage une dynamique qui était une sorte d'aventure collective qui avait été celle de mes courts métrages. Et donc j'ai, comme vous l'avez compris, évidemment choisi la deuxième solution qui s'est imposée, qui était évidente et qui m'a permis de faire ce film dans des conditions de liberté et même d'enthousiasme, qui était parce que il y avait cette chose assez euphorique où il y avait le sentiment, tout d'un coup, on nous donnait la clé de la voiture des parents, quoi. Enfin, tout d'un coup, on pouvait faire... tout d'un coup, les uns et les autres, pour la première fois, on pouvait faire un film, le film qu'on rêvait de faire, qu'on avait eu envie de faire, le faire dans des conditions un peu de liberté, de rébellion aussi, par rapport au code du cinéma, de l'industrie du cinéma, qui était ce qu'on avait toujours désiré. Et donc il y avait une sorte d'utopie en action, quoi, dans la fabrication de ce film. C'est pour ça que sa fabrication a été assez intense pour les uns et pour les autres.
Parce que là, avec cette liberté, ça me fait penser à quelque chose que j'ai relevé dans une interview que vous aviez donnée pour Les Inrecuptibles il y a quelques années, où vous disiez « je n'aime pas l'industrie du cinéma français ».
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je la trouve conventionnelle. Je trouve que, disons que c'est des, disons que je la trouve, je la trouve quelquefois un peu fossilisée, quoi. Je dis l'industrie, enfin dans le sens cinéma de flux. Dans le cinéma français, il y a ce qu'on appelle le cinéma indépendant sous ses différentes formes, qui lui est un des cinémas les plus actifs, les plus vivants, les plus libres du monde. Et en France, on a la chance d'avoir des structures qui permettent, qui aident, qui soutiennent les jeunes qui débutent et à plus forte raison ceux qui ont des projets de cinéma personnels, originaux, risqués. C'est un système que beaucoup de pays nous envient et beaucoup de jeunes cinéastes nous envient dans le monde entier. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je me suis toujours vécu du côté d'un cinéma qui serait héritier de la Nouvelle Vague, en fait, qui serait le cinéma que l'existence de la Nouvelle Vague en France a permis de faire exister, de faire vivre. Et de ce point-là, je ne suis jamais ni identifié, ni senti à l'aise d'ailleurs avec, ce qu'on appelle l'industrie, les Césars, tout ce que vous voudrez, qui ont jamais été un monde dans lequel je me suis senti chez moi, quoi.
Et pour revenir à Désordre, comment on fait pour avoir Étienne Daho dans son premier film ?
Ça c'était un clin d'œil, c'était un ami, donc disons que ça a à voir peut-être aussi avec mon histoire antérieure à la pratique du cinéma, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes gens qui débutaient, qui dans le cinéma à cette époque-là, ils venaient un peu du court métrage, d'une sorte de court métragisme, quoi, je sais pas comment dire, enfin, et qui sortaient d'une cinéphilie un peu conventionnelle. Moi, il se trouve que mon chemin vers le cinéma, il est passé par des zigzags qui ont à voir avec peut-être la façon dont la musique, le gauchisme, des trucs comme ça, etc., se sont mélangés et m'ont porté plus que l'histoire du cinéma. J'ai eu la chance ou la malchance d'être adolescent pendant les années 70. C'était une période de révolte, c'était une période où il y avait et où d'une certaine façon de révolte de la jeunesse et où le mode d'expression, la forme d'expression, c'était la musique. C'est vrai que moi, quand j'ai eu 20 ans, que j'ai commencé à faire des courts-métrages, l'énergie qui me portait était plus l'énergie du punk rock ou de ces déclinaisons françaises. Ça veut pas du tout dire, hein, évidemment, épingle à nourrice et iroquois. Ça veut dire à un moment donné, c'était une musique qui portait une espèce de force de renouveau sur laquelle beaucoup de gens ont surfé, et moi compris. Et donc, c'est vrai que à cette époque, mes amis, les gens que je voyais, que je fréquentais, c'était plutôt la scène musicale new wave que encore une fois le cinéma qui me semblait un peu plan-plan, un peu en retard, un peu pas vivant, enfin moins vivant en tout cas que la musique à cette époque-là. Et c'est dans ce cadre-là, par des amis communs qui étaient Ellie et Jacquenot, et les Stinky Toys, enfin bon, des groupes que les gens oubliaient maintenant, j'ai connu Étienne. C'est un moment où c'est une époque où on se voyait, on se croisait, on était un peu dans le même monde. Donc c'était presque naturel que je propose à Étienne de faire presque une sorte de comme un clin d'œil, un petit rôle. Et c'est une époque aussi où il avait un petit peu envie d'être acteur. Parce que simultanément, Claude-Éric Poirou, qui a produit Désordre, il a produit dans la foulée un autre film, qui était le second film de Virginie Thévenet, qui s'appelait... Jeux d'artifice, et dans lequel Étienne jouait.
Alors on parle de musique, et dans Désordre, on parle d'un groupe. Dans Clean, un autre de vos films, on parle d'un groupe aussi. Alors juste par curiosité, est-ce que vous-même, étant jeune, vous avez eu l'expérience d'un groupe ? De rock, quelque chose?
Non, j'ai vraiment zéro oreille musicale. Je suis incapable de tenir un instrument, et donc c'est peut-être pour ça que ça m'attire, parce que c'est ça à voir plus avec une incapacité absolue, etc. Et j'ai toujours pensé que j'avais pas d'oreille du tout. Et en fait, bizarrement, c'est en faisant des films que je me suis rendu compte que j'avais une oreille au fond plus, enfin qui correspond pas du tout à la musique. Mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on apprend aussi en faisant des films. qui est la dimension du son, quoi, et c'est vrai que la réflexion sur le son, le travail du son, les nuances les plus infimes du son et leur importance, c'est quelque chose qu'on découvre en faisant des films. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment enseigner. Il y a des gens qui ont écrit des choses très bien sur le son, Michel Chion en particulier, mais quand même, c'est un univers qu'on découvre en pratiquant le cinéma et de façon de comme en plus avec le numérique, le son est devenu de plus en plus riche, de plus en plus complexe, etc. C'est au fond, on développe une sorte d'oreille qui est, enfin, moi j'ai le sentiment d'avoir développé une sorte d'oreille assez précise, mais qui a à voir avec le son de cinéma plutôt qu'avec la musique. Et je continue à être complètement incapable de jouer deux notes à la suite, quoi.
Alors, Désordre, c'est donc le portrait d'une bande de jeunes un peu désordonnés qui ne savent pas toujours ce qu'ils veulent ni comment l'obtenir. Est-ce que vous-même, vous étiez un jeune homme désordonné ?
C'est peu de le dire, mais disons que d'une certaine façon, on l'a tous été d'une façon ou d'une autre. Je dis ça dans le sens où j'ai l'impression que ce que raconte Désordre a à voir avec ce moment de la jeunesse où on cherche son identité et où au fond on grandit en bande, hein. Il y a toujours un biais. Je crois que c'est quelque chose qui est le propre de toutes les générations, où il y a quelque chose de la façon dont elle. Donc, pour moi, le groupe de rock était l'image de cette espèce de vie collective de la jeunesse, de la bande, quoi. Et qu'il y a un moment où, pour devenir soi-même, pour être soi-même, pour s'accomplir, on doit s'en dissocier. On doit devenir soi-même, on doit sortir des valeurs du groupe pour se poser la question de quelles sont ses propres valeurs à soi, qu'est-ce qu'on veut être, pourquoi, comment. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la bande, le groupe peut se transformer aussi en couple, qui est une forme, disons, plus mûre de la sociabilité. Donc le Désordre raconte un peu ça. Ça raconte quelque chose d'assez archétypal, au fond. Alors, moi, je l'ai raconté à travers le rock, à travers une géographie qui est celle du rock, ce côté banlieue, centre de Paris, Londres, New York, là, qui est une sorte de géographie imaginaire du rock. Je l'ai raconté à travers, effectivement, la musique, à travers, d'une certaine façon, cet arrière-plan, enfin, un arrière-plan qui est celui de la musique, mais au fond, je crois que j'aurais pu raconter à peu près la même histoire dans n'importe quel milieu. Je sais plus à qui. Je me souviens d'ailleurs quand je sais plus à qui j'en parlais à l'époque, mais c'est marrant, ça m'est resté parce que tout d'un coup on dit des trucs je sais plus. Je devais expliquer à un des acteurs peut-être. Ce qu'était que ce film, quoi. Comment je l'imaginais. Je lui avais dit, mais écoute, imagine-le comme, tu sais, ces films de guerre où il y a une sorte de patrouille perdue, où il y a où les gens se font descendre un par un jusqu'à ce qu'il n'y en a plus qu'un dernier de vivant, quoi, quelque chose comme ça. C'est pas exactement ça, mais ça a à voir. Il y avait ce côté film d'action aussi, d'une certaine façon, qui me portait, quoi, enfin qui me donnait une sorte de repère. Quand j'ai fait Clean bien plus tard, c'est une autre logique, c'est une autre dynamique.
Et donc, comme vous le disiez plus tôt, vous avez fait les Beaux-Arts, et moi je voulais vous reciter, parce que j'aime bien citer. Voilà. J'ai toujours redouté que mon travail se referme sur lui-même et devienne une sorte de fin en soi, un peu comme les arts plastiques et le roman moderne rétrécissent actuellement leur champ d'action. La beauté du cinéma, c'est ce qui est ample par rapport à sa capacité à s'adresser au plus grand nombre. Alors, est-ce que votre passage dans cette école a eu un impact artistique, idéologique, ou comment rebondir sur ça ?
Non, parce que j'ai très vite rétropédalé. C'est-à-dire que j'ai fait un passage quand même assez éclair au Beaux-Arts où j'ai appris à dessiner. J'ai l'impression d'avoir pas fait grand-chose. J'étais très intimidé parce que l'idée de peindre en atelier est un truc qui dès que je m'y suis trouvé confronté, m'a tétanisé. C'est-à-dire que la peinture, ça marchait quand j'étais tout seul dans ma chambre d'ado, etc. Mais que le fait en atelier avec des gens qui regardent ce que je fais, ça me semblait invivable. Donc du coup, je me suis un peu replié sur les ateliers où je dessinais du nu et des trucs comme ça pour apprendre à dessiner, quoi. Et du coup, maintenant je dessine moins bien, mais à l'époque je dessinais mieux. Mais j'ai appris, ouais, j'ai au moins appris ça. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Mais enfin, votre question, c'est sans doute pas exactement ce que voulait dire votre question, mais c'est vrai que de la même manière que dans le dessin, j'ai appris à aller de l'abstraction à la figuration, parce que j'ai commencé encore une fois par l'abstraction, et puis en plus, au fur et à mesure que je dessinais, j'apprenais à dessiner, j'apprenais à représenter des choses réelles, et même à faire des bandes dessinées, c'est-à-dire essayer de raconter des histoires, pas exactement des bandes dessinées, c'était très marqué par ce que faisait Bazooka à cette époque-là, enfin si ça dit encore quelque chose à quelqu'un, mais disons qu'il y avait l'idée il y avait tout d'un coup des idées, des personnages, des mots, etc. Donc c'est comme si j'avais fait un chemin vers la figuration. Et j'ai l'impression que ce que j'essaye de dire là-dedans, c'est que dans le cinéma aussi, ce qui m'a toujours passionné, c'est l'idée de faire un chemin vers la figuration dans le sens où on pourrait dire assez facilement que le cinéma est toujours figuratif, mais en fait, c'est pas si clair que ça. C'est-à-dire, surtout à cette époque-là, c'est-à-dire, disons que peut-être parce que j'étais très marqué par Godard ou des choses comme ça, etc. J'ai l'impression que ce cinéma qui est lié aux arts plastiques était ce qui comptait beaucoup pour moi et qu'il y a un moment où j'ai compris que mon chemin à moi, d'abord pour commencer à faire des films, il fallait que j'apprenne à écrire, hein, donc d'où les scénarios, d'où l'écriture, etc. Et d'une certaine façon, que je commence à que je puisse être à l'aise avec l'idée de créer des personnages, de raconter des histoires, et donc d'aller vers une sorte de figuration, de représentation du monde, qui pour ma génération et à l'époque n'était pas quelque chose de si évident que ça.
Alors, puisque vous parlez d'apprentissage, entre Désordre et 30 ans plus tard, Personnel Chopper, est-ce que quelque chose change dans votre façon d'aborder la direction d'acteur ?
Oui, absolument, totalement. Mes courts-métrages, c'est-à-dire ce que j'ai fait avant Désordre, j'ai envie d'être sous la moquette, quoi, quand je regarde des trucs, du point de vue de la façon dont je faisais jouer les acteurs. C'était pas possible, quoi. Je savais pas comment on travaillait avec des acteurs. Je ne le savais réellement pas. Et c'est vraiment en regardant André Téchiné travailler, en voyant et puis en écrivant que tout d'un coup j'ai commencé à me dire bon, oui, il faut donner de l'espace aux acteurs, mais ça restait très contrôlé. C'est-à-dire que d'abord, quand on fait un premier film comme Désordre, tout est une première fois. Donc on découvre tout. On découvre ce qu'on sait faire comme ce qu'on sait pas faire, ce qui est important et ce qui est moins important, ce avec quoi on a un rapport plus fort, etc. Par exemple, c'est vrai que c'est en tournant Désordre que je me suis rendu compte que j'avais d'une certaine façon une sorte d'aimantation vers les actrices. C'est-à-dire, j'ai compris, je me suis rendu compte relativement tôt dans la fabrication, enfin dans le courant de la fabrication de Désordre, que j'avais un rapport spécifique avec les actrices et que j'aimais filmer les actrices. En l'occurrence, Anne-Gisèle Glas et Corinne Dacla. Il y avait aussi j'avais du plaisir à cette idée de tournage itinérant, qui est quelque chose que j'ai reproduit dans mes films ultérieurs, parce que c'est littéralement par ça que vous avez commencé. Mais Il y a eu une crise, à un moment donné, dans la fabrication de désordre. Ça ne se voit pas dans le film, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sur le coup, ça a été assez dur. Et ça a été pour moi une sorte d'acte, j'ai envie de dire presque d'acte fondateur. À l'époque, aujourd'hui, il y a des gens qui font du casting. C'est une chose assez courante, quoi. Enfin, ça fait partie sur les films. C'est un métier qui est courant, le casting. À l'époque, ça marchait pas comme ça. À l'époque, c'était le réalisateur et l'assistant qui faisait le casting en cherchant des acteurs. Bon, moi, quand j'ai abordé Désordre, il y avait, comme c'était des jeunes gens, il y avait cette idée de me confronter d'abord à des gens qui avaient fait peu de choses, ou très peu de choses, ou rien du tout, et qui étaient une nouvelle génération d'acteurs. C'est-à-dire il y avait cette idée d'une forme de virginité, quoi, chez les acteurs. Alors, dans la manière dont j'ai abordé le casting, et donc j'ai fait un casting où j'ai vu toutes les écoles de théâtre à Paris et ailleurs, des castings sauvages, tout ce que vous voudrez, etc. Et il y a eu une sorte de travail collectif autour du casting que j'ai fait avec mon assistant qui était Michel Bénat, que j'avais connu parce qu'il avait été l'assistant de Téchiné, qui était en fait le seul qui soit expérimenté là dans la bande, quoi. Enfin, les autres débutaient. Michel avait déjà fait quelques films, dont des films plus ambitieux, enfin plus avec des budgets plus conséquents, comme Désordre, comme Rendez-vous. Et donc, c'est vrai que sur l'organisation du travail, la méthode, etc., c'est Michel, en particulier le casting, c'était lui qui, enfin, c'était un interlocuteur privilégié, c'était lui qui canalisait le casting. Mais c'est vrai que j'avais simultanément pris comme assistante quelqu'un qui commençait à faire des films et qui sortait de l'idée, qui était Claire Devers. Et Claire, qui a fait un film qui a eu la caméra d'or, qui s'appelait Noir et Blanc, était aussi une sorte d'interlocutrice privilégiée. Il y avait quelque chose de collégial dans la façon dont on a fait le casting du film, dont on a fait des essais, dont on a fait les choix, etc., etc. Et quand on a commencé à faire le film, j'ai commencé à sentir, moi j'avais aucune expérience, il se trouvait que de direction d'acteur, il se trouvait que Claire avait déjà fait ce long métrage un peu underground, mais enfin néanmoins Noir et Blanc, que Michel avait travaillé avec André, que d'une certaine façon il y avait le côté où ils mettaient leur grain de sel. C'est-à-dire qu'il y avait une manière de me dire, mais est-ce que tu ferais pas une autre prise où tu lui dirais ceci, où tu lui dirais cela, et pourquoi, etc. Lui, j'aime pas très bien tellement ce qu'il fait, pourquoi tu devrais pas, etc. Et il y a un moment donné, ça m'a gonflé. Il y a un moment donné, j'ai plus supporté le truc, et au résultat, je me suis brouillé avec Claire, et plus ou moins avec, et beaucoup moins avec Michel, mais j'ai remis Michel à une place qui était plus la même, parce qu'il y a eu un moment donné où je me suis dit, bon, je vais peut-être faire des erreurs, peut-être je ferai pas comme il faut, etc., mais là c'est mes personnages, j'ai dans l'oreille ce que j'ai envie d'entendre, et j'ai envie d'une certaine façon de faire une sorte de coup d'état et de m'approprier mon propre film. Mais c'est quelque chose qui s'est fait, encore une fois, autour de mon inexpérience du travail d'acteur et la façon dont, à un moment donné, pour faire ce film, je me suis dit, il faut que je me jette à l'eau, que je prenne tous les risques. Et de toute façon, faire un premier film, c'est ça. C'est aussi dire, bon, ben, peut-être que je ne sais pas comment il faut faire, peut-être les autres font autrement, mais voilà, ce film-là, c'est mon occasion à moi de faire comme je pense qu'il faut faire. Et alors, encore une fois, j'ai la liberté dans le travail avec les acteurs, parce que vous comparez des films que j'ai faits à un intervalle relativement long, progressivement, ce qu'il pouvait y avoir d'un peu, je dirais, d'un peu cadré, d'un peu écrit, et d'un peu, même un peu raide dans la façon dont je dirigeais les acteurs, parce qu'il y avait l'influence écrasante de Bresson, qui était quand même là tout le temps. Bon, c'est quelque chose dont je me suis progressivement défait pour donner de plus en plus de liberté, voire une liberté totale à mes comédiens, y compris celle de transformer le texte, de l'adapter. Enfin, disons que tout d'un coup, la collaboration avec les acteurs devient beaucoup plus riche.
Donc on a beaucoup parlé de rencontres dans cette masterclass, que ce soit avec Serge Toubiana, avec André Téchiné ou tous les autres. Il y a Le Monde qui, chaque semaine, fait une interview sur le thème « Je n'en serais pas arrivé là si », je trouve vraiment bien. Et vous, si vous posez cette question, vous n'en seriez pas arrivé là si.
C'est difficile de répondre à cette question, parce que le cinéma, il n'y a pas une personne, il y a quelque chose de, c'est quand même un art collectif. Donc moi j'aurais envie de façon très spontanée, très évidente pour moi, de rendre hommage aux gens avec qui j'ai fait mes films. Il se trouve que moi j'ai fait les films. Des fois j'avais le sentiment qu'il y a le côté groupe de rock, enfin dans l'équipe du film. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3, 4, 5 collaborateurs artistiques très proches qui m'ont suivi à travers presque tous mes films. Luc Barnier, il a monté tous mes films depuis mes courts-métrages jusqu'à sa mort après qu'on ait fait après mai. François Labarthe, il a fait les décors c'était son premier long métrage. Hier on tournait encore ensemble. Donc c'est hier, le jour d'avant d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, c'est pas métaphoriquement hier. C'est j'ai l'impression, ou Denis Lenoir, on a travaillé, qui a fait des ordres. Il a tourné la moitié de Carlos il y a pas si longtemps que ça. C'est ce que je veux dire, c'est que là où je dis je n'en serais pas arrivé là si, c'est le côté j'ai appris d'eux. C'est-à-dire que moi j'ai appris à faire du cinéma avec, parce que le propre des techniciens avec qui on collabore, même si c'est des jeunes, quand on a fait des ordres, on partait tous à peu près du même point, plus ou moins. Mais après, moi je fais un film tous les 2 ans, un truc comme ça, même si je tourne régulièrement et souvent ou plus que d'autres, etc. C'est entre temps, les techniciens, ils ont le temps de faire 4 films ou 5 films, donc ils apprennent des trucs. Ils apprennent, ils découvrent d'autres manières de fonctionner. Tout d'un coup, même techniquement, ils acquièrent des outils. Surtout, c'est une période où j'ai fait comme entre mon premier et mon film le plus récent. C'est une période où le cinéma a changé de façon invraisemblable. Et donc, où les outils du cinéma ont changé. Et ça, je l'ai appris encore une fois, dans le dialogue et dans la façon de partager aussi la création de mes films avec mes collaborateurs.
Alors avant de laisser la parole pour d'éventuelles questions, je vais vous poser une dernière question qui est celle qu'on pose à tous les cinéastes qu'on rencontre, qui est très simple, c'est si vous aviez un conseil à donner à un étudiant ou à un jeune qui aspire au métier du cinéma, ce serait...
Moi je crois que c'est... Si vous voulez, je crois que dans le cinéma, comme dans n'importe quel art, et même peut-être dans n'importe quel métier dans la vie, faut pas faire comme on vous dit qu'il faut faire. C'est dans le sens où il me semble que chaque voix, chacun a en lui un rapport singulier à la pratique d'un art, qui ne ressemble pas à ce que les autres ont fait à d'autres époques, et que d'une certaine façon, la chose la plus précieuse, c'est cette singularité. Et cette singularité, quelquefois, elle peut apparaître comme une maladresse, elle peut apparaître comme quelque chose, comme un boulet même quelquefois. Et à un moment donné, on se rend compte que non, c'est la chose spécifique dans laquelle, à travers laquelle, on s'accomplira. Et il ne faut pas avoir peur de prendre le risque de l'imposer. Je crois que ça n'a pas de sens au cinéma comme ailleurs de faire ce qui a déjà été fait, de répéter ce qui a déjà été fait, de reproduire l'identique. Il faut le cinéma, il se réinvente tous les jours, parce que le monde se réinvente tous les jours et donc la façon de l'enregistrer se réinvente. Et donc la sensibilité de chacun, elle est surtout quand on est jeune ou très jeune, on a une sensibilité, un rapport au monde qui est complètement singulier et qui est justement, qui n'est pas chargé de toutes les idées reçues ou les conventions auxquelles on finit, que le temps finit par constituer quelquefois comme une gangue autour de nous. Donc c'est ça la chose la plus précieuse, c'est ça qu'il faut protéger.
Merci.
Alors, est-ce que... Oui, bah oui.
Oui, bonsoir. En fait, j'avais pas vu Désordre et j'étais très impressionné par le film, mais surtout par la mise en scène. Je trouve le film très mis en scène, et dans le bon sens du terme. À l'époque, vraiment à cette époque-là, c'était quoi vos références concrètes pour la mise en scène ?
Je sais plus. je crois que le seul cinéaste que j'ai regardé consciemment en me disant comment il fait, et j'ai regardé comment il faisait, et dans les films que je voyais à l'époque, on parle d'une époque qui est avant la VHS ou le DVD, et encore plus le Blu-ray, c'est Fritz Lang. C'est Fritz Lang. Moi, j'ai toujours regardé Fritz Lang comme un maître, et y a quelque chose qui a à voir avec la richesse l'évidence, quoi, de son écriture, à la fois la simplicité et la complexité à la fois de son écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. J'étais très marqué par Bresson, ça, encore une fois, ça c'est sûr. Enfin, disons, il y a une sorte, parce que au fond, Bresson, souvent on le regarde comme quelqu'un qui est du côté d'un minimalisme, une forme de spiritualité. Oui, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui a une écriture, qui a une élégance et une précision d'écriture qui est unique, qui est rare. Donc c'est vrai que moi j'ai regardé, après je pense qu'il y avait sûrement d'autres cinéastes, mais c'est vrai que je cherchais ce côté, mais Lang, c'est peut-être la référence la plus juste, parce que je cherchais à la fois quelque chose de moderne et de classique à la fois, de quelque chose qui aurait ce côté à la fois ligne claire et qui en même temps prendrait le risque de la durée des plans, d'une certaine complexité effectivement de chorégraphique, quoi, à l'intérieur du plan.
J'avais une autre question, si vous me permettez. En voyant la première partie du film, ce que ça m'a évoqué, mais c'était vraiment mes réminiscences à moi, c'est le cinéma français des années 30, je ne sais pas pourquoi, cette question de la fatalité, quelque part, et tout l'enchaînement qu'il y a...
Oui, oui. Oui, oui, alors, est-ce que ça me...
Vous aviez conscience ou pas du tout à l'époque ?
Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Enfin, pas tant que ça. Rétrospectivement, je vois ce que vous voulez dire, mais c'était pas. C'était, enfin, je l'avais pas. En tout cas, pas consciemment à l'esprit. Mais non, disons que sur cette dimension-là ou cet aspect-là. Peut-être que il y avait quelqu'un que j'admirais beaucoup, que j'admire toujours beaucoup, qui est Melville. C'est peut-être qu'il y a quelque chose de Melville, peut-être qui résonnait, pas consciemment. Hein, j'avais pas ça à l'esprit en le faisant, mais comme c'est quelque chose que j'ai toujours admiré, peut-être que ça se retrouvait dans le film. Mais après, c'est vrai que c'était beaucoup aussi pour moi le cinéma américain. C'était beaucoup le cinéma de genre américain. De genre américain aussi, c'est John Carpenter. John Carpenter, moi, ça m'a quand même beaucoup beaucoup marqué, quoi.
Bonsoir. J'aurais du coup deux questions un petit peu en une. Vous avez parlé de votre passage aux Beaux-Arts en disant que vous étiez tétanisé par le fait de montrer vos peintures, vos dessins. En revanche, avec le cinéma, ça va, parce qu'a priori, un film, c'est fait pour être vu. Hein. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez cette approche-là avec le cinéma, finalement ? Qu'est-ce qui vous a décidé à faire du cinéma plutôt que de la peinture ?
Oui, oui.
Et vu que vous montrez vos films et que vous avez été des deux côtés, quelle est l'importance pour vous de la critique, qu'elle soit des téléspectateurs ou de la presse éventuellement ?
Oui, alors, c'est pas deux questions, c'est quatre au minimum. Alors, attendez, vous avez commencé par quoi ?
Sur le fait de montrer vos films.
Oui, voilà. Alors, sur le fait de montrer vos films. Oui, non. Alors, montrer mes tableaux, ça ne me posait pas de problème. Ou de montrer mes dessins, ça ne me posait pas de problème. J'en ai publié. Hein. C'est l'atelier. Disons qu'il y a quelque chose qui a à voir. Enfin, le processus de la création a quelque chose d'intime. Quoi. C'est de la même manière qu'aujourd'hui encore, je ne serais pas très à l'aise s'il y avait quelqu'un au-dessus de mon épaule qui regardait ce que j'écris. Quoi. Parce que j'ai de la même manière sur les tournages. Maintenant, il y a cette horrible manière d'avoir des making-of, etc. Ça me met très, très mal à l'aise. J'ose pas dire non parce que ça sert pour le DVD, la promotion du film, ce qu'on voudra, etc. Mais ça me met physiquement mal. J'essaye d'être cool avec ça quand même. C'est plutôt comme ça que ça se présentait hein, pour moi. Mais alors après, pourquoi la peinture plutôt que le cinéma plutôt que la peinture ? Ça, alors là, il y a eu quelque chose, oui, qui je crois est très important et a beaucoup compté pour moi. C'est la solitude du dessin et la solitude de la peinture sont devenues insupportables. Sont réellement insupportables, c'est-à-dire que parce que il y a une période où je faisais des courts-métrages, j'écrivais, je faisais etc. et je continue à peindre. Il y a un moment où ce truc de se retrouver, je sais pas comment dire, parce que c'est très addictif le dessin ou la peinture. Enfin, moi je passais mes nuits à ça, quoi. Donc dans un état, je crois, de solitude qui m'est devenu à un moment donné insupportable, invivable, presque pathologique, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a fait peur. Et le cinéma m'a apporté une pratique artistique qui était ouverte sur le monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais plus seul dans cette espèce d'introspection presque malsaine. Je pouvais être dans quelque chose que je partage, qui est dans la vie, qui est dans le mouvement, qui est dans le monde, et où il y a là, cette espèce de plaisir de faire des choses ensemble et de pratiquer un art qui est complètement ouvert sur la société, sur l'imaginaire, sur la nature, enfin, etc. Et où tout d'un coup, il y avait presque, je trouve, je peux utiliser d'autres mots pour le dire, mais c'est encore le plus simple de dire que ça m'a presque donné un sens à ma vie, quoi. Tout d'un coup, le cinéma répondait à toutes les questions que les dessins ou la peinture réponses que me donnait la peinture et qui ne me satisfaisait pas. Après, vous m'avez écouté, il y avait d'autres choses.
La dernière question sur votre rapport aux critiques et à la critique.
Oui, alors, si vous voulez, il y a deux choses qu'on confond facilement. Et ça, j'ai envie de dire que moi, je les ai jamais confondus. Ce qui sont la théorie et la critique, qui sont deux choses tout à fait distinctes. La critique. Type critique culinaire, hein, genre allez-y, c'est bon pour vous, n'y allez pas, c'est pas bon pour vous, j'ai goûté pour vous, etc. J'y ai mis deux étoiles, une étoile et demie, un point noir, etc. Je peux pas dire que je me suis jamais intéressé à ça. J'ai gagné ma vie à certains moments en faisant ça, mais enfin dans des publications relativement marginales comme Rock et Folk ou Metal Hurlant à l'époque. Ni ce que j'écrivais sur ce registre-là, et ni ce que je, éventuellement par la suite, je peux lire dans mes films, je ne veux pas le dévaloriser, mais ça ne me concerne qu'à moitié. Enfin, ça, c'est, je préfère que ça plaise à tout le monde plutôt que l'inverse. Mais par contre, j'ai toujours été convaincu qu'il doit y avoir un dialogue avec la théorie. Que la théorie, c'est la pensée de l'action, quoi. C'est-à-dire que tous les arts, à toutes les époques, ont besoin d'une forme de pensée, de réflexion sur la pratique, quoi, et qu'il doit y avoir un dialogue, un aller-retour, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, la question de la théorie m'a toujours intéressé. Et ce que j'ai écrit, et qui pour moi, ce que j'ai conservé dans les recueils que j'ai publiés de mes propres textes, sont des choses qui relèvent de la théorie. D'une réflexion sur la pratique du cinéma. Et aujourd'hui, c'est une distinction à laquelle, enfin, il y a une autre distinction à laquelle je tiens beaucoup, qui tient au fait que quelque chose qui a à voir avec la théorie de cinéma a été confisqué par l'université. Je veux dire, dans le sens où depuis qu'on enseigne le cinéma à l'université, ce qui est un phénomène relativement récent, hein, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça que ça a pris cette importance-là et cette respectabilité-là aussi, d'une certaine façon, il y a quelque chose qui s'est cristallisé où la théorie est produite par l'université, mais l'université elle n'a pas de rapport avec la pratique, donc d'une certaine façon il y a une forme de réflexion sur le cinéma qui devient idéologique. Ce qui, à mon sens, n'est pas une chose positive. Et que ce qu'il pouvait y avoir, et qui était ce que j'ai aimé, moi, dans les cahiers du cinéma, quand j'y étais, et dans les périodes qui ont précédé, c'était encore une fois cette circulation, cette porte ouverte entre la pratique et la réflexion. Cette idée, qu'encore une fois, que c'était pas des professeurs qui pratiquaient la théorie, mais que c'était des jeunes gens qui avaient envie de faire des films. Et du coup, c'est ça qui rendait ça vivant. Et aujourd'hui, je dirais que ça manque un peu parce qu'encore une fois, on confond les catégories, quoi. Alors qu'au fond, c'est des catégories distinctes.
Oui, moi, je voulais parler de Sils Maria, que j'ai trouvé magnifique. Et quand je suis sorti du film, j'ai trouvé que le scénario était vraiment brillant. Et je voulais savoir comment vous en êtes venu à associer tous ces paramètres, un duo d'actrices, un village en Suisse, un film.
Merci pour votre question. Je sais, je n'ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça tient au fait que c'est un film qui s'est écrit par strates. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire en disant j'écris pour Juliette Binoche. La question, ça a été qu'est-ce que je peux écrire pour Juliette Binoche ? Parce qu'on s'était dit on va faire un film ensemble. Assez vite, je me suis dit au fond, la seule manière de rendre ça intéressant, c'est de lui faire jouer quelqu'un qui lui ressemble. Et parce qu'elle ne l'a jamais fait. Enfin, c'est toujours un peu la question quand on travaille avec une actrice, c'est pas tellement la question de qu'est-ce qu'elle peut vous donner, mais la question de qu'est-ce que vous pouvez lui donner. C'est-à-dire dans le sens qu'est-ce que vous pouvez lui donner qu'elle n'a pas encore fait, dans lequel elle peut exprimer une dimension d'elle-même qui ne s'est pas encore déployée. Et puis, voilà, après, j'ai envie de dire, j'ai commencé à écrire et puis je ne savais pas où ça allait, donc j'ai laissé tomber. J'ai repris 6 mois plus tard, quand j'ai eu une idée de plus. C'est un scénario au fond que j'ai écrit. C'est pas que ça m'a pris beaucoup de temps pratiquement à le rédiger, mais ça a pris beaucoup de temps à prendre sa forme, quoi, à trouver sa forme. Et j'ai jamais forcé, c'est-à-dire que j'ai toujours attendu en me disant bon ben voilà ça va se compléter, il manque ceci, il manque cela, etc. Ça s'est développé un peu organiquement avec comme ce que je fais toujours, c'est-à-dire avec un côté un peu collage, quoi, c'est-à-dire qu'en faisant aussi se confronter des choses qui a priori vont pas ensemble, etc. Voilà, qui est où je me dis ça va produire une sorte de ça va produire des courts-circuits, quoi. Enfin, au cinéma, ce que j'aime bien, c'est les courts-circuits.
Bonsoir, merci pour votre présence et vos réponses. Dans la deuxième partie du film, le personnage de Anne se fait acheter ses vêtements par quelqu'un d'autre et se fait habiller par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'était déjà l'embryon d'une des thématiques que vous avez développées dans Personnage Hopper ?
Oui, rétrospectivement, je le crains, mais je sais pas comment dire. Disons qu'à l'époque, quand je faisais des ordres, non, disons qu'il y a des choses dont j'étais conscient. Il y a des choses dont je ne pouvais pas être conscient. Enfin, je ne pouvais pas être conscient de la façon dont telle ou telle chose allait se développer par la suite dans mon cinéma. À l'époque, je trouvais ça déjà incroyable de faire un seul film, quoi. Déjà en faire deux, ça m'aurait semblé de la science-fiction, quoi. Disons que c'est toujours aussi le côté premier film, c'est le côté on met tout dedans. On met tout dedans, quoi. C'est un peu le côté Bernard Palissy, quoi. Je mets les meubles dans le four, et etc. Le film est terminé, il reste plus rien, quoi. J'ai l'impression d'être en slip. Par contre, il y a des choses qui sont relativement au fond complexes du cinéma dont je pense que d'une certaine façon j'étais conscient. C'est-à-dire, par contre, j'ai envie de dire que c'est pas tellement par rapport à Personal Shopper, c'est plutôt les fantômes dans ce film-là qui étaient déjà là, c'est beaucoup plus littéral. C'est dans le sens où moi j'ai perdu mon père relativement jeune, enfin jeune, j'avais plus de 20 ans, hein, mais avant de commencer à faire des films. Dans ce film-là, dans le suivant, L'enfant de l'hiver, il y a des figures de père que je fais revivre. Et donc il y avait ce sentiment de faire revivre mon père. Enfin, il y avait quelque chose de presque littéral, où il y avait quelque chose d'assez troublant. Peut-être parce que ça m'avait traumatisé enfant, où moi je voyais souvent mon père le matin quand il faisait sa toilette, etc., et que je le voyais à poil dans sa baignoire, comme le truc le plus normal du monde. Et donc j'ai reproduit ce truc-là dans le film. Mais il y avait aussi, encore une fois, il y avait une manière de faire revivre un mort, quoi. Et le personnage que joue Anne Gisèle, il y avait c'est une sorte de d'amour de jeunesse, de femme que j'avais, de jeune fille que j'avais éperdument aimée. On s'était séparés, elle s'était mise à vivre avec un homme plus âgé, qui est plus âgé qu'elle. Et d'une certaine façon, il y a quelque chose la façon dont le fait qu'elle soit devenue adulte beaucoup plus vite que moi, c'est ce que j'ai montré peut-être le trouble que ça suscitait en moi, le fait qu'elle soit devenue quelqu'un d'autre en devenant plus mûre et en vivant avec un autre homme, c'est ça que j'ai essayé de raconter. Et à cette époque, je l'avais plus. On s'était complètement perdu de vue. C'était 10 ans avant, quand j'étais une tout à fait autre personne. Mais il y a quelque chose de encore une fois de fantomatique qui a revécu à travers cette espèce de transformation, y compris à travers les vêtements du personnage, quoi.
Pardon.
Allez-y.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que quand vous écrivez un film, est-ce que vous restez à ce que vous avez écrit, ou est-ce que sur le tournage, vous laissez la liberté de laisser improviser les acteurs et de surprendre des situations qui peuvent vous intéresser pour le film?
Oui. Disons aujourd'hui, oui. Maintenant, oui, de plus en plus. Tous les derniers films que j'ai faits, c'est beaucoup. Enfin, c'est une dimension à laquelle je tiens beaucoup dans la pratique du cinéma. À l'époque où je faisais des ordres, j'étais incapable de faire ça. Disons que des ordres, j'étais quand même. Après, le film prend sa vie. Il y a plein de choses qui ont trait au décor, au lieu, à la façon dont les acteurs s'approprient le rôle, malgré le sentiment de contrôle quand même que j'avais besoin d'avoir. Un film n'a toujours, ça s'invente tous les jours, mais c'est vrai que en termes de dramaturgie, de scène, de manière de raconter, quand je fais des ordres, je suis encore je reste très près du scénario. Je reste assez collé au scénario. Aujourd'hui, j'ai horreur de ça. Aujourd'hui, je fais l'inverse. Je fais l'inverse de ça.
J'ai une citation. Je n'anticipe jamais, ou peut-être sur mes premiers films où l'on se sent un peu intimidé, on veut bien faire ses devoirs, se couvrir un peu.
Oui, 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 bah bien sûr. Disons que j'aurais jamais, quand je faisais mon premier film, et même d'ailleurs le second, donné le genre de liberté que j'ai commencé à donner aux acteurs quand j'ai fait, je sais pas, L'eau froide, qui était déjà mon quatrième ou cinquième film. Et où à partir de là, j'ai compris que je pouvais faire parce que j'avais acquis une espèce de liberté d'écriture que j'avais au fond. Compris que comment ça marchait, enfin disons, je dis pas que j'ai horreur du terme de maîtrise, mais enfin au minimum j'ai envie de dire que je connaissais mon propre langage, quoi. J'avais appris mon propre langage et je savais que dans ce langage là je pouvais, dans cette écriture là je pouvais donner de l'espace aux acteurs et que ça pouvait donner des choses beaucoup mieux que celles que je suscitais en essayant de contrôler, d'expliquer, de cadrer, etc. Donc mes premiers films de ce point de vue là sont plus cadrés, et c'est vrai que au début, quand on fait des films, il y a ce côté, encore une fois, c'est comme si on vous confie pour la première fois les moyens du cinéma. Il y a cette envie de montrer qu'on sait s'en servir, quoi, qu'on est à l'aise avec ça.
Bonsoir. Quand on regarde donc toute votre carrière du début au Cahiers du cinéma à aujourd'hui Personnel Shopper, on peut vraiment voir une ascension assez impressionnante, et on dit souvent que dans le monde artistique comme professionnel en général, une réussite se base, bon, en plus du talent et de la détermination, elle se base sur quelques opportunités finalement qu'on a su saisir, que ce soit ouais, même en 40 ans de carrière, ça peut être trois opportunités. Oui. Quelles ont été les vôtres?
Ce que vous dites, c'est profondément vrai, hein. C'est profondément vrai. J'ai toujours un peu l'impression que même tous les films, d'une manière ou d'une autre, c'est jamais acquis, un film. C'est jamais acquis. C'est difficile pour tout le monde de faire des films. Et à un moment donné, si un film se fait, j'ai l'impression que c'est comme quand... C'est comme au foot, quoi, quand il y a une ouverture comme ça pour faire passer un goal, quoi. Il faut juste taper au bon moment, et c'est miraculeux que ça ait lieu. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'il y a un moment donné où c'est essentiel, au fond, dans une carrière artistique, hein, dans le cinéma, d'avoir d'être lucide là-dessus et d'avoir le sentiment de quand les choses s'alignent et qu'elles sont possibles. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai fait Carlos, j'ai eu le sentiment tout d'un coup de comprendre que j'avais entre les mains un truc qui était exceptionnel. Enfin, dans le sens où j'avais la possibilité de faire, dans des conditions de liberté absolue, un film hors norme. Et je me suis engouffré dans la brèche, quoi. J'ai eu le sentiment de m'engouffrer dans la brèche, mais je l'ai vécu comme une sorte de, comme ça, d'opportunité à saisir, qui me permettait effectivement de passer au-delà de ce que j'avais fait jusque-là. Et c'est vrai que ça, c'est très important d'être très vigilant, attentif, sensible à cette dimension-là qui est très importante.
Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Pardon.
Merci d'être là. J'ai deux questions en une. Par rapport à vos deux derniers films, vous avez présenté donc Sils Maria et Personnel Shopper un peu comme un diptyque. Et un des points communs, c'est Kirsten Stewart dans le film, ainsi que l'environnement, je veux dire, les confins de la célébrité. Mmh. Qu'est-ce que vous, en tant que réalisateur français, vous retenez de la direction d'une actrice star américaine? Et deuxième question, sur Personnel Shopper, il y a eu un accueil mitigé au moment de la projection et ensuite un prix. Donc, comment est-ce qu'on vit ces hauts et bas dans la réception de son travail?
Ça, c'est grandeur et misère. Non, disons que la collaboration avec Kristen Stewart,
ça fait partie des opportunités dont vous parliez. Il y a un moment où j'ai compris que avec Kristen Stewart, il y a quelque chose. Qu'avoir la chance d'avoir une relation comme ça de travail avec une actrice qui découvre ses propres capacités, c'est assez miraculeux. C'est-à-dire dans le sens où c'est pas moi qui ai inventé Kristen Stewart, c'est quelqu'un de brillant, elle a fait mille choses, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être le cinéaste qui, à un moment donné, lui a donné un espace de liberté qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Et que tout d'un coup, elle s'est déployée dans cet espace. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il fallait saisir au vol, de se dire, au fond, peut-être il y a moyen de prolonger ça en essayant parce qu'il me semble que la liberté qu'elle peut avoir dans un film indépendant, européen, etc., c'est quelque chose qui est essentiel pour elle et auquel qui est précieux pour elle, y compris dans sa carrière et dans le développement de son propre talent, et qu'il y a dans notre collaboration quelque chose d'important et de précieux pour l'un comme pour l'autre. On peut avoir fait autant de films qu'on veut. Le fait de c'est une rencontre de cette qualité-là, c'est miraculeux. C'est une chance et qu'on saisit pour ce qu'elle vaut. C'est-à-dire vraiment un grand privilège, quoi. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui aussi. Du point de vue du désir qu'on a de filmer, de l'inspiration, etc., qui est aussi porté par ce dialogue-là, par cet échange-là. Donc c'est vrai que la collaboration tout d'un coup avec Kristen Stewart, c'est quelque chose qui est aussi important que pour moi que c'est une rencontre artistique importante. C'est pas juste une comédienne. Après, comment les films sont reçus, c'est toujours comme ça. Moi, en tout cas, dans mon cas, moi, c'est toujours un peu les montagnes russes. Donc, il y a plus forte raison quand on présente un film à Cannes. Cannes, c'est très hystérique, quoi. Enfin, j'ai envie de dire presque au bon sens du terme, mais c'est très réactif, etc. Et au fond, la vision d'ailleurs à Cannes, elle est très déformée, enfin, d'une certaine façon. Mais on sait aussi que c'est l'endroit le plus formidable pour présenter un film, parce que il y a une sorte il y a le côté fosse au lion, mais enfin, en même temps, c'est quelque chose d'extraordinairement vivant, vital. Énergisant, enfin, etc. Donc moi, il faut prendre les deux faces de la même pièce, quoi. Faut les accepter.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vais revenir sur Sils Maria, parce que j'avais été très émue en voyant ce film, sur votre connaissance si fine de l'art de l'actrice, en l'occurrence de la vie intérieure qu'elle peut avoir. Je m'étais vraiment demandé, vous parliez de collage, si vous aviez vraiment travaillé avec Juliette Binoche pour vraiment savoir comment est-ce qu'elle préparait ses rôles, ou si vraiment ça vient de votre imagination ou de votre vision de l'actrice. Enfin, je trouve que ça va si loin dans une telle profondeur. Enfin, moi, ça a été vraiment une vraie révélation, presque un modèle. Et je me suis vraiment posé cette question.
J'ai pas discuté de façon aussi précise que ça avec Juliette. Disons qu'en fait, quand j'écrivais, on se voyait régulièrement, de temps en temps, disons, et on parlait vraiment de tout et de rien, quoi. Enfin, donc c'est vraiment. Mais c'est vrai que j'avais besoin d'entendre sa voix, de bavarder avec elle, de l'entendre rire, etc., etc. J'avais besoin de me servir de ça de façon indirecte pour nourrir l'écriture. Mais au fond, la dimension, cette dimension dont vous parlez, c'est quelque chose qu'elle apporte par son jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est le texte que j'ai écrit, mais
au fond, il s'est quand même développé, déployé à travers elle. Et ça ne veut pas forcément dire de changer tant que ça les mots, hein, mais c'est une manière de les jouer, de mettre l'accent plus sur ceci ou cela. Et puis je crois que ce qui a beaucoup compté dans le... Dans le film et la façon dont on l'a fait. Mais d'ailleurs, c'était pareil hein, quand on avait fait ensemble l'heure d'été, enfin, où elle avait un petit rôle, mais etc. Mais je crois qu'on a une sorte d'humour, enfin, on a la même forme d'humour avec Juliette. Donc, il y a un truc où tu vois, où il y a ce côté un peu sur l'ironie des choses, etc., qu'on a assez facilement en commun. Et donc, du coup, on est très vite sur la même longueur d'onde, quoi. On est très vite sur la même longueur d'onde. Je crois qu'un film comme Sils Maria, c'est aussi une sorte de tremplin pour elle. Et je crois qu'il y a beaucoup de son expérience à elle, de la manière dont elle joue les scènes, dont elle travaille, qui nourrit les scènes.
Donc le texte avait été intégralement écrit, en fait, s'il n'y a pas eu d'improvisation.
Non, très peu. Il y a un ou deux moments... il y a un ou deux moments qui ne sont pas de l'improvisation. Enfin, disons que... Il y a un ou deux moments où on tourne à deux caméras et où je laisse tourner, où il y a des choses qui se passent entre Christine et Juliette, qui doivent être cinq ou six moments spécifiques dans le film, mais qui sont très importants. Où de fait, il y a une forme d'improvisation, enfin, il y a un peu d'improvisation, en tout cas, elle complète le texte, elle joue avec le texte, mais quelquefois, il y a aussi des scènes qui sont transformées dans le jeu, quoi. Même si on garde le texte, il y a une manière de les jouer, de les dramatiser, ou au contraire de les dédramatiser, qui est une profonde modification de ce qu'il y avait sur le papier au départ. Il y a des trucs que Juliette a fait que j'attendais pas du tout et qui sont mais qui remettent pas en question le texte mais qui remettent en question ce qu'il raconte ou ce qu'il exprime ou sa dynamique.
Merci.
Je vous propose de poser une dernière question.
Oui. Nous parler de vos prochains projets si vous en avez. Merci.
Non, je peux pas en parler. Disons que oui. Enfin, non, parce que c'est pas encore assez solide. C'est pas encore assez. Oui.
Merci. Du coup, oui, j'en profite pour poser une question. Moi, je vous ai découvert avec La Destinée Sentimentale et je voulais savoir si vous aviez une anecdote ou quel souvenir vous gardez de ce film.
Moi, j'ai un souvenir. J'ai un souvenir assez magique, en fait. Ça a été dur. Hein. C'était assez un film qui a été super dur à tourner parce que je me suis pas bien entendu avec le producteur et tout, qui lui-même s'entendait pas bien avec moi. qui s'est très vite désolidarisé du film. Donc le film, on l'a fait vraiment, c'est vraiment l'équipe qui l'a fait avec moi et un peu en etc. Mais il y a eu toute une partie à la fois de la préparation du film et du début du tournage dans le Limousin et dans la région de Cognac hein, autour près de Jarnac, de Barbezieux en été et tout qui était où en particulier quand on a tourné la scène du bal qu'on a tourné pendant une semaine littéralement. Il faisait chaud la nuit. Enfin, il y avait quelque chose d'assez merveilleux en fait. Et j'ai le sentiment, c'est drôle parce que j'ai vécu avec ce film pendant longtemps, hein, parce que il se faisait plus. J'ai passé beaucoup de temps, encore une fois, dans la région de Jacques Chardonne, dans Limousin. Et j'avais l'impression, c'est comme une sorte de vie, d'avoir vécu une vie parallèle, quoi. C'est plus que beaucoup plus que d'autres de mes films. Ça tient au fait que ce soit un film d'époque, ça tient au fait de la complexité du film, des moyens qu'on a eus, de la façon dont j'étais obligé de me documenter de façon très très de façon très 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 précise, très 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 exigeante, enfin sur l'époque, sur les mœurs, sur la région, etc. J'ai le sentiment de plus jamais y être retourné, quoi. J'ai plus vraiment l'occasion de voir ces lieux, etc. Et donc c'est comme une sorte de, c'est comme une autre vie. C'est comme si j'avais vécu une autre vie. J'ai un drôle de rapport avec ce film.
Si vous souhaitez,
oui,
parce que Olivier Assayas sera demain au Reflet Médicis, c'est ça? Voilà, juste je vous le dis pour présenter un film de Louis Malle.
N'en parlez pas, mais Assayas par Assayas, tome 2, c'est quand?
Il faut encore que j'ai le temps de l'écrire, ça me prend beaucoup de temps en fait. Ça me prend beaucoup de temps, donc j'ai. Je sais, je suis arrivé à 2002, j'en suis à 2002 là. Ouais. Disons que j'ai écrit encore tout un chapitre qui concerne Désordre, et après il faut que je conserve que je... pas Désordre, pardon, excusez-moi, Demon Lover, parce que je... c'est-à-dire que non, ça se fait en, disons que il y a une sorte de j'ai envie de dire de guide quoi que je fais qui est sous forme du dialogue avec Jean-Michel, mais en fait après je jette tout et je réécris et j'écris autre chose et j'invente les questions grosso modo, donc c'est une sorte de dialogue qui est un peu un faux dialogue et un vrai texte, et donc c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps à chaque fois. Oui. Disons qu'il y a deux. Enfin, oui, c'est une très vaste question, mais je peux répondre. Si j'avais le temps d'y répondre si je pouvais prendre en charge la complexité du sujet, disons que d'une part, je suis très attaché à cette idée d'un cinéma qui relève de l'incarnation, c'est-à-dire de l'incarnation de l'écrit. C'est pour ça que j'écris tout seul. Enfin, j'aime pas travailler avec des scénaristes. J'ai besoin d'une sorte d'écriture à la première personne, parce que je trouve qu'une des choses les plus belles du cinéma, c'est la façon dont le cinéma est une sorte d'incarnation de l'écriture, c'est-à-dire que quand même c'est assez miraculeux quoi. On imagine des situations, on imagine des personnages, et puis ils sont là en chair et en os devant vous. Enfin, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc du coup il y a cette idée quand même du cinéma en tant que déploiement de la littérature, de l'écriture quoi. Enfin, à laquelle je tiens beaucoup. Et après, c'est sûr que autant je ne crois pas en un cinéma littéraire, mais je crois dans un cinéma qui se nourrit de l'écriture et de la littérature, et d'une certaine façon j'ai toujours considéré ce qui était précieux pour moi dans la pratique du cinéma, c'était de pouvoir préserver cette liberté de déployer une œuvre de la même manière qu'un romancier déploie la sienne, d'avoir la liberté au cinéma dont le modèle a été donné par le roman quoi. Et c'est quelque chose, et d'une certaine façon je pense que c'est quelque chose qui me relie très profondément à une idée du cinéma qui est celle de la nouvelle vague. Pour moi, ce qu'ont été les cahiers du cinéma d'André Bazin, de François Truffaut, de Jean-Luc Godard, de Claude Chabrol, etc. Au fond, c'est une sorte de NRF. Quand ils faisaient les cahiers, je pense qu'ils se vivaient comme étant la NRF. Et c'est une idée, et d'une certaine façon, de ce point de vue-là, il y a un fil qui traverse le XXe siècle. Quoi.
Eh bien, merci infiniment, Olivier Assayas.
Merci.
Donc, comme je le disais juste avant, demain vous présentez un film de Louis Malle au Reflet Médicis.
Film de Louis de Luc.
Oui, c'est pas pareil. Peut-être un jour Louis Malle. Hein. Non. Et puis, pour les rendez-vous Starting Block, nous en faisons un par mois. Et puis, nous serons ravis de vous accueillir à nouveau pour d'autres cinéastes et d'autres rencontres qui, je l'espère, seront aussi passionnantes que celle-ci. Merci.